Notre invité aujourd'hui, François Mouton, et je le précise, fils de Roger Gosselin. Roger Gosselin qui a été annonceur, animateur.
Grande vedette de Télémétropole à l'époque, Votre Canadis à Montréal.
Oui, et qui faisait de la voix aussi, ce qu'on appelait la cabine.
Oui, il a fait tellement de choses.
Qu'est-ce que vous retenez principalement de votre père au plan professionnel par rapport à ce que vous faites maintenant parce que vous êtes réalisateur?
Moi, je l'ai connu professionnellement vers la fin. Donc, je l'ai connu à l'époque de Samedi Magazine. Et puis, il commençait à être un peu plus... c'était la fin de sa carrière. Et puis, c'était un peu plus difficile dans le métier parce que le métier est cruel. Il y a des jeunes qui poussent. Il y aura toujours plus jeunes, plus fous qui font chanter les bougalous. Hein.
Oui. C'est ça le fond de l'histoire. Parce que quand vous étiez très jeune, votre rêve, c'était pas nécessairement de devenir réalisateur à Radio-Canada, c'était peut-être plus de jouer au hockey.
Le hockey a pris une grande partie de ma vie, mais c'est comme n'importe quel jeune. Nous autres, je me rappelle quand on était tout petit à Ville-Lorraine, forcément les jours de fin de semaine, mais la rue était fermée. Et puis même, c'est drôle parce que tu me fais penser à quelque chose. Il y avait le grand Serge qu'on l'appelait, c'est le chef de police de Ville-Lorraine. Puis il arrivait avec sa voiture de police, puis là, il donnait un coup de sirène, puis là, il venait s'informer du score. Il venait pas nous dire de nous enlever. Il voulait savoir quel était le score. Puis c'est comique parce que c'est des souvenirs, ça.
Vous ne deviez pas voir souvent votre père, cependant, parce que le travail était...
On le voyait rarement. Ouais. On le voyait rarement. Il faisait 6 jours par semaine à l'époque. Aujourd'hui, je pense que juste Pierre Bruno puis Patrice Roy qui font encore la semaine de 5 jours. La plupart des annonceurs maintenant font 4 jours puis quelqu'un qui remplace la fin de semaine. Papa, à l'époque, faisait 6 jours, 2 bulletins de nouvelles par jour. C'était beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Puis en plus, que les moyens techniques étaient tellement désuets comparativement à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est instantané. Là. Vous tapez un texte, puis il est parti partout.
Lorsqu'on est enfant et qu'un de ses parents est une personnalité publique, j'imagine qu'on se fait agacer à l'école
Ça a plein d'avantages. Ça a plein d'avantages.
Ah, oui.
Mais des avantages, oui, des avantages qui sont clairs. On parlait de hockey. Bon, j'étais le seul enfant sur la rue qui jouait avec un bâton du célèbre numéro 18.
Moi,
J'avais le bâton de Serge Savard. Par contre.
Alors, vous faisiez des jaloux, là.
Ouais, mais moi, j'étais jeune, j'étais petit cul. Mais par contre, l'envers de la médaille, c'est quand mes parents se sont séparés, ben, je l'ai appris sur le front du Journal de Montréal le lendemain à l'école.
Ouais, ça, c'est moins drôle.
On ne savait pas à ce moment-là.
Vous étiez un peu rebelle à l'école. Vous n'étiez pas vraiment très studieux.
Non, moi puis l'école, ça n'a jamais vraiment été une passion.
Un petit peu délinquant?
Totalement délinquant. La pire période, c'est quand les mini-jupes sont apparues. Ça, plus tard, ça a été la débandade totale. Par contre, je suis quelqu'un qui apprend rapidement. Fait que même, on parlait juste de la VR tantôt. Il n'y a pas de modèle. C'est un nouveau langage télévisuel. Moi, je l'ai appris tout seul.
Alors, ça tombe bien, on va écouter le chant du bum.
Puis, on se rappelle la phrase célèbre, « J'aurais dû, ben du don dû.
» Richard Desjardins.
L'autre fois, je parlais avec mon bonhomme. Il me dit, « Astor, t'es un grand bop. Comment s'entends-tu, sac le camp? » J'ai dit, « Pourquoi je suis ben ici? Je me sens chez nous, puis je peux pas me bosser du bazou. » 2, 3. J'aurais dû ben du don du fabri ma grande. Ça fait que là, que si que je vais planter là sur le coin de la rue, tout nu comme un pou. J'ai dit je m'en faire mon homme, m'en pogner une job, m'en faire le tour, m'en commencer par la poule roube. Qui si guirzou, dit loup-garou, qui me dit d'en face, t'en rappelles-tu que tu me dois 100 piastres? Ben laisse-moi le temps de l'oublier. En attendant, je viens de parler ma guine. T'auras-tu quoi pour la payer? 2, 3. J'aurais du pain, du don, du farmer ma grande. Je suis borré de partout. Je suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous. Un peu froissé dans mon honneur. Moi, incompris total. A ben fallu que je me pile sur le cœur. J'ai pris ma décision finale, pas de tabonnage, pas de tétage, je m'en voudrais au bien-être social. Une belle grande femme qui sent le push-push, petit pousse-pousse-pousse, un crayon jaune me demande pourquoi que je travaille pas. Rien qu'à y penser, madame, je viens tanner, y'a quelque chose en moi qui me dit que je suis pas fait pour ça. Point de vue culture, madame, un certain nombre de points.
premièrement, selon le petit Robert, le dictionnaire étymologique, le mot chômage vient du latin comare, qui veut dire se reposer pendant qu'il fait chaud. Deuxièmement, selon le petit Robert, le mot travail vient du latin tripalium, qui veut dire torture. Je ne peux rien y faire. Troisièmement, c'est pas une job que je veux, c'est de l'argent.
Deux, trois!
J'arrête du bain du don, tu formes ma grande gueule. J'suis bonito partout, j'suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous. J'suis bonito partout, j'suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous. Sans un sou, sans bazou, sans amis, sans abri, pis l'hiver qui sévit, le temps passe tranquillement. Me voilà rendu vagabond dans cette situation, c'est l'amour ou bien la prison. Le juge m'a dit, vous n'avez rien commis, je vous condamne conséquemment à 100 piastres ou l'hiver en dedans. Merci beaucoup la seigneurie, en voilà un qui m'a compris, je pense que je vais prendre l'argent. J'arrête du bain du don, tu fermes ma grande gueule. J'suis bonné de partout, j'suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous. J'suis bonné de partout, j'suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous.
Richard Desjardins, proposé par François Mouton. C'est presque une description de ce que vous étiez ou de ce que vous êtes ou de ce que vous auriez
Sauf
pu être.
Sauf que j'ai pas quand même demandé au juge l'argent. C'est ce bout-là que j'ai laissé tomber.
Oui. Donc, une enfance un peu olé-olé, somme toute.
Une enfance normale.
Normale, mais pas
en deux étapes.
Oui.
Après ça, j'ai fait de mon mieux. Je me rappelle toujours d'une phrase. À l'époque, j'allais au collège Jules Mairie. Ma mère m'avait fait entrer là pour essayer de me mettre du plomb dans la tête, comme elle disait. Et puis, il y avait un directeur de discipline là-bas qui était absolument incroyable. Puis, il avait dit à ma mère à un moment donné, je pense que votre fils, là, tout ce qu'il va faire dans la vie, ça va être un vendeur. Puis, finalement, quelques années plus tard, je revenais d'Afghanistan. J'étais allé le voir. Puis, il me regarde, il part à rire. Il dit, je savais que tu te débrouillerais.
on parle de, évidemment, la blague d'un aspect de délinquant, mais sans être vraiment une grande délinquance. Il y a un chanteur qui, lui, se fait parfois délinquant au plan des valeurs qu'il véhicule, parfois très à droite, très grand défenseur de la France, mais il a aussi été très peiné par la disparition du France, le fameux paquebot. On parle de Michel Sardou. Mm-hmm. Je suis curieux de savoir pourquoi vous nous avez proposé cette chanson.
Moi, j'ai découvert son disque, en fait, son œuvre, pas son disque, plutôt son œuvre. Il y a une espèce de best-of, là, d'une soixantaine de pièces. Et puis, je suis tombé sur cette pièce-là, Le France. Et surtout qu'il y a une phrase là-dedans qui dit « Si tu avais le courage de présenter ton cul, parce que l'idée, c'est de le couler. » Et puis, j'ai toujours trouvé que ces textes sont mordants. Ces textes sont vraiment, vraiment, là, il va loin dans ce qu'il décrit. Et il y a même une, je ne me rappelle plus du nom de la pièce, mais il parle d'une faillite qui est pour faire, puis que les impôts sont après lui.
Oui.
Et puis, d'une violence incroyable. Il n'y a personne au Québec qui compose comme ça. Mais c'est un homme qui, puis en plus, une voix.
Oui. Alors, Le France, juste pour se rappeler, pour notre auditoire, c'était un énorme paquebot, le plus grand du monde.
C'est le plus grand.
Qui a été mis en service en janvier 62, qui avait été inauguré d'ailleurs, mis à l'eau par Charles de Gaulle, qui était décoré par plusieurs peintres de l'École de Paris. Le France a pendant 12 ans suré des traversées transatlantiques et quelques croisières autour du monde. Mais en 1974, malgré la promesse du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, de ne jamais cesser les opérations du France, il a annoncé la fin des opérations parce que, bon, ce n'était pas rentable. Pourtant, c'était devenu l'emblème des Français sur la scène internationale.
Dans la pièce, d'ailleurs, il fait mention du Queen Mary, qui lui est taquée maintenant.
Tout à fait. Mmh. Alors, le France a été revendu d'abord à un homme d'affaires saoudien en 1977, ensuite à un armateur norvégien en 1979. Il a été rebaptisé Norway. Il a assuré pendant quelques années des croisières en mer des Caraïbes. Mmh. Et, à la toute fin, il a été revendu à un ferrailleur, rebaptisé Blue Lady en 2006, qui a complètement démantelé ce bateau et ça a fini dans un tas de ferraille en Inde en 2009. C'est assez triste comme histoire. Et dans la mémoire collective en France, il a été célébré par cette chanson de Michel Sardou que vous allez proposer, Le France. C'est en 1975 qu'il a écrit cette chanson qui lui rend hommage juste au moment de sa vente. Cette chanson, François, elle est restée 6 semaines numéro 1. C'est une chanson qui demeure un titre majeur, comme vous le disiez, du répertoire du chanteur Michel Sardou. On va se permettre de l'écouter.
Avec plaisir.
Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'en vis les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser Milan. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorants. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Navet, pays breton où je suis né. Ne m'appelez plus jamais France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté.
La disparition du France, chantée par Michel Sardou, nous amène aussi à évoquer que le monde change. Le monde d'autrefois disparaît, un monde nouveau réapparaît. Vous vous êtes retrouvé, vous, dans des zones de tension, je pense par exemple en Afghanistan, au Kirghizistan. Qu'est-ce que vous retenez de ces voyages?
Je vais toujours retenir une chose, c'est que Frédéric Nikolov, en 72, était allé en Afghanistan. Il est allé voir les Bouddhas de Bamiyan. Il avait fait l'Afghanistan à cheval. Des femmes, à l'époque, à Kaboul, portaient des mini-jupes plus courtes que les filles ici aujourd'hui. Et puis, en 70, 72, maintenant, quand je suis allé la première fois, c'est en 2003. Et puis, on vivait dans un autre monde complètement. Puis ce que je disais toujours à mes enfants en revenant de voyage, toujours, la vie démocratique, c'est important de s'en occuper.
Mais c'est fragile.
C'est super fragile. Puis c'est quand on le voit là-bas. Il y a un hôtel là-bas, l'Intercontinental, magnifique hôtel, sur une plaine, c'est vraiment superbe. Il y a encore des vignes. Les vignes sont encore là. On n'a pas le droit de boire de vin, on n'a pas le droit d'en produire. Alors, je disais toujours aux enfants, intéressez-vous, débattez. Intéressez-vous à la vie sociale, à la vie politique.
Ça change nos valeurs que de voyager.
Complètement. Oui. Kirghizistan, on t'en parlait tantôt, une exaction entre les Kirghizes et les Ouzbeks, ben, ça s'entretuait littéralement. Puis essayez de comprendre, c'est pratiquement ce qui s'est passé au Rwanda. On décide d'assassiner les voisins parce que sont d'une autre ethnie.
Est-ce que ça change notre façon de voir l'être humain?
Sûrement.
Qu'est-ce qui a changé chez vous?
Je dirais que je suis devenu beaucoup plus attentif aux signes que les gens envoient. Il y a des façons de percevoir, des façons de respecter les autres qui sont importantes à maîtriser.
Plus ou moins tolérant?
Je pense que je suis beaucoup plus tolérant. Beaucoup plus tolérant. Par contre, je me laisse pas piller ses pieds. Parce que Il y a quelque chose dans le Coran qui est absolument extraordinaire. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Puis je trouve qu'à quelque part, il y a un sens à tout ça.
François, on retombe dans les souvenirs, on réécoute votre papa. Une belle page où il nous raconte qu'il a connu Jean-Pierre Ferland, puis il nous présente même une de ses pièces. On va écouter Roger Gosselin, qui est décédé en 2011.
Jean-Pierre Ferland, je suis allé à l'école avec lui. Et on était pas dans la même classe, mais son père avait une station-service sur rue Mont-Royal, ce qu'on appelle maintenant pompeusement le plateau. Et moi, je demeurais entre Saint-Hubert et Saint-André. Et c'était un peu plus loin, je pense, je n'ai plus le nom de la rue, mais enfin quelques rues de là. Et Jean-Pierre Ferland, ben, je l'ai connu là. Puis je l'ai retrouvé ensuite lorsqu'il était à Radio-Canada, chef annonceur, comme on appelait ça à l'époque. Oui. Aujourd'hui, je ne sais plus le terme. Et il était venu à ses cavernes, justement, parce que là, il pouvait jouer de la guitare, puis il pouvait chanter ses chansons. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis une chanson, si vous me permettez, de Jean-Pierre Ferland, pour le saluer en même temps. On se voit pas souvent, on se plie pas souvent sur les pieds.
Alors, on doit peut-être une partie de sa carrière à votre présence à CKVL.
Non, quand même. Il ne faut pas exagérer.
Mais j'allais dire une chance qu'on ça.
Une chance qu'on ça. C'est peut-être aussi peut-être ce qui l'inspirait, ça m'étonnerait quand même.
Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance qu'on ça. Quand tu m'appelles mon petit loup, avec ta petite voix, tu penses mes pleurs, tu tues tous mes papillons noirs, tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Je suis pas très grand,
pas très fort, mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi, mon bon chat, t'auras jamais peur. Tant que je vivrai, même si je meurs, une chance que je t'ai, tu m'as, une chance qu'on sort. Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes. Que je finirai dans ton lit, le paradis, c'est ici, y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai. Tu m'as une chance qu'on sort. Je ferai tous les planétariums. Je t'ai, tu m'as cherché dans toutes les galaxies. Une chance qu'on sort. Une chance qu'on s'aime.
Eh hey, mon Dieu, une chance qu'on sent. C'est drôle parce qu'il parlait de la rue Saint-Hubert, du plateau Mont-Royal. Je l'ai tellement entendu parler. Chaque fois qu'on passait sur cette rue-là, il nous montrait le logement où il habitait. Puis lui avec son frère Claude, qui s'amusait là, puis avec Marcel qui lui criait après. Puis d'ailleurs, c'est les premières années où il a commencé à faire de la radio. Parce que Claude Mouton voulait être annonceur lui aussi. Et puis ils avaient modifié l'appareil radio de la famille. Il avait branché des pinces alligators pour être capable de parler dans la radio. Fait qu'il faisait des spectacles.
Des beaux souvenirs d'entendre papa à nouveau, n'est-ce pas?
Ben oui.
François, vos projets à long terme ou à moyen terme?
Pour le moment, c'est la réalité virtuelle. Je pense que c'est vraiment l'avenir de la télévision qui se prépare avec ça. Puis vraiment, c'est quelque chose qui va transformer notre façon de consommer.
Et au plan des valeurs, parce que vous nous avez parlé de ces voyages qui transforment, qui modulent ce que l'on devient, est-ce que vous avez encore foi en l'humain?
Complètement. Complètement. Tu sais, le danger qui nous guette, comme journaliste, comme travailleur d'information, c'est le cynisme. Puis la seule façon de se protéger contre ça, c'est de découvrir que l'humain est important. Puis de rester accroché à nos valeurs. C'est ça qui est important.
Bien, formidable. Merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions, ces souvenirs. Et on va vous souhaiter beaucoup de succès avec cette réalité virtuelle qui est en train de
sûrement se revoir dans un monde virtuel quelque part.
Voilà. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Henri Linz. Armand Dubois, la réalisation et l'animation de cette émission. Au gré du temps, c'est toujours un plaisir que de recevoir des invités de la qualité de celui qui était présent avec nous depuis deux semaines, François
Trop
Mouton.
Gentil.
La dernière chanson qui va nous servir de thème de fermeture, elle est de Gilbert Bécaud. Il y a une raison particulière.
Complètement. C'est moi qui a fait le vidéo hommage de papa quand il est décédé, et c'était sur cette pièce-là. Fait que des yeux mouillés sur cette pièce-là, il y en a eu, parce que les paroles sont absolument incroyables.
Je partirai, Gilbert Bécaud. Mais revenez-nous en information, François.
Avec plaisir, Armand.
Au revoir.
Au revoir.
Faudra bien que ça arrive, je partirai. Il faudra bien que ça arrive, je partirai. Tu pleureras, j'en pleurerai. Tu haïras, je te plaindrai. Mal installé entre deux rires, je partirai, ouais. faudra pas que tu t'en étonnes, je partirai. Je ne veux déranger personne, je partirai. Tu sais, parfois il faut casser, casser les cœurs et les idées, les numéros de téléphone. Faut les changer, ouais. Il faut changer d'air, les valises, je partirai. Il faut changer d'eau, notre église, je partirai. Les biscottes et les trains-trains, le thé au citron du matin, les robinets se gargarisent. Je partirai, ouais. Mes chimères sont au fond de mon désert. Prisonnière, prisonnière des bouteilles à la mer. Couloir des hautes surveillances, je partirai. Vers les couloirs de mon enfance où je courais. Un mot de plus, un mot de moins, un bonnet d'âne et puis au coin, c'était le début des offenses. Je partirai, ouais. Je n'écris plus en lettres rondes, je partirai. Fini les chambres en rotonde, je partirai. Fini l'amour à la grimace, le consommer en demi-tasse. Moi, il me faut des tours du monde. Je partirai, ouais. Mes chimères sont au fond de mon désert. Prisonnière, prisonnière des bouteilles à la mer.